RMC, les grandes gueules.
Attaque au couteau à Bordeaux sur la ce qu'on appelle la promenade dite du miroir d'eau. C'est un homme, Angelaba, qui s'est attaqué à un groupe, peut-être parce qu'il consommait de l'alcool. Alors les images sont terribles. Il frappe alors que l'homme lui dit d'arrêter. Une victime, l'assaillant tué par la police qui patrouillait à côté. Le parquet terroriste suit l'affaire, mais pas de mobile pour l'heure. C'est ce qu'on dit du côté du parquet antiterroriste. Il va falloir profiler l'assassin qui est algérien, la victime aussi, la personne blessée, idem. Je vous raconte une petite anecdote. Hier, je sortais du stade, vous savez, le Parc des Princes qui était déjà sous haute surveillance. Mehdi y est allé aussi et c'était compliqué pour y aller. Bon, voilà, tout était ultra filtré parce qu'il y avait les menaces de Daesh. Et puis en sortant, il y avait sur le trottoir, pas très loin de moi, il y avait un couple qui regardait après le match justement la vidéo. Il y avait la jeune fille qui disait « Oh là là, ça me fait flipper ». Bah oui, c'est vrai que ça fait flipper ces attaques au couteau. 32-16, ça rajoute au sentiment d'insécurité qui est déjà très présent chez les Français. Quand on regarde le sondage, est là pour BFM TV, plus de trois quarts des Français aujourd'hui se sentent pas en sécurité. On peur quasiment au quotidien, on peur pour leurs enfants. Barbara Lefebvre, attaque.
Bah, chaque jour, on a 120 attaques au couteau par jour. Hein.
C'est compliqué d'avoir des chiffres précis.
Oui,
hein, quand même.
Mais enfin, on est sur une centaine d'attaques au couteau par jour. Alors bien sûr, il y en aura toujours un pour vous expliquer. Oui, mais c'est dans le cadre intrafamilial. Oui, bah d'accord, mais enfin quand même. Il y en a aussi quelques-unes qui sont pas dans le cadre intrafamilial et quand ça tombe sur ton fils, ta fille ou toi, tu relativises les appréciations sociologiques.
Là, le mobile, ce serait parce qu'il consommait de l'alcool.
Le mobile. Alors évidemment, comme on ne sait pas encore, il faut être très prudent dans ce qu'on est en train de dire. Mais apparemment, il n'était pas content que ces deux compatriotes, puisque il était lui-même algérien et eux étaient algériens.
Ouais.
Donc il n'était pas content qu'il présupposait que parce qu'ils étaient d'origine maghrébine, ils devaient être musulmans et ils devaient donc ne pas boire d'alcool. Enfin, c'était ses présupposés à lui. Mais apparemment, ces gens-là avaient leur propre décision de vie. Et donc, parce qu'ils ne buvaient pas d'alcool, ils les auraient poignardés. C'est comme cette jeune fille, cette jeune collégienne, dans le bus à Aschenheim, là, qui va au collège et qui se fait molester par quatre camarades parce qu'elle fait pas ramadan. Mais ses parents et elle ont eu la juste présence, et on va dire aujourd'hui, c'est triste, mais le courage d'aller porter plainte à la police. Donc je pense que voilà, on est dans une situation.
On va parler de quoi? De bouffée délirante à ce moment-là?
De toute façon, il est mort, donc on va pas pouvoir voir s'il a une bouffée délirante, mais je pense que oui, on va aller fouiller un peu dans sa vie, et puis on va se rendre compte.
Regarder ses ordinateurs, ses portables.
Voilà, puis alors on va nous dire qu'il est déséquilibré, ou qu'il avait un parcours difficile, ou je ne sais quoi, mais enfin, en tout cas, il a tué quelqu'un, et il en a un autre dans un état grave, donc. Moi, je pense que oui, tout ça ne fait qu'ajouter au climat.
Oui, mais au moment où Gabriel Attal dit, il faut rétablir de l'ordre et partout.
Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit lundi. Hein, l'école est un sanctuaire. Normalement, la France est un sanctuaire. Normalement, d'ailleurs, des gens fuient des pays en guerre pour venir se réfugier en France parce que la France est un havre de paix. Ben, apparemment. La France n'est pas un havre de paix. Donc on n'est pas devenu Kaboul, faut pas rêver, non, faut pas complètement exagérer. On n'est pas
Non mais malheureusement mais on a des faits dramatiques qui s'enchaînent.
Voilà, qui ça s'enchaîne. Oui. Alors après, encore une fois, tu vas voir qu'on va en avoir une flopée qui vont t'expliquer, c'est les médias qui parlent que de ça.
Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que justement dans le sondage Elab pour BFM TV de Bernard Sananès qu'on a décortiqué hier, justement, les Français estiment que ce n'est pas la faute des médias, l'effet loupe des médias
mais
qui aujourd'hui, on prend le terme ensauvagement de la société, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de libération comme ça de la violence qui part du plus jeune âge, c'est-à-dire de 14 ans jusque chez les adultes en pleine rue, alors qu'avant la violence était réservée véritablement à la délinquance, au banditisme.
Ouais, bah
or là, elle touche toutes les couches de la société et elle permet de régler des différends
exactement,
et des problèmes.
Exactement, mais comme on le verra tout à l'heure avec les émeutes, les profils ne sont pas toujours ce qu'on croit. Et tout le pipeau land que oui, c'est l'exclusion, oui, c'est ci, oui, c'est ça. Non, c'est que derrière, il y a des gens qui sont travaillés par des pulsions qui sont poussées par des visions du monde qui ne sont pas conformes à celles de notre civilité ici en Occident où effectivement, c'est le libre arbitre. T'as envie de boire de l'alcool, bah tu bois de l'alcool et on s'en fout de ton origine, tu fais ce que tu veux. T'es dans un pays libre, eh ben, apparemment, je dis, nous ne sommes pas dans un pays libre concernant la vision que certains ont. Dans ces cas-là, moi je dis, retour à l'envoyeur, c'est tout.
Mehdi.
Tout d'abord, mes pensées vont à la famille de la victime. Je sais que la deuxième personne n'est plus en urgence absolue. Mes pensées vont à eux déjà, aux deux victimes, dont l'une qui est décédée. Et ensuite, on est à moins de 24 heures de ce qui s'est passé, donc il faut prendre des pincettes par rapport à ce qui a eu lieu. Je ne suis pas au courant, je n'ai pas plus d'informations que vous. Si c'est suite à une consommation d'alcool, c'est du délire complet. Et je tiens à féliciter les forces de police qui ont rapidement réagi et qui ont pu neutraliser l'assaillant très très rapidement, parce que ça, personne ne précise qu'au bout de 5 minutes de temps, bah, la police était sur place, ouais. et les forces d'intervention.
D'où l'importance d'avoir
des policiers partout.
Des patrouilles, voilà.
Exactement.
Des patrouilles, et donc de la présence policière et pas uniquement de l'intervention.
Je pense qu'on parle beaucoup de détails qui est l'alcool ou X ou Y ou Rix ou quoi que ce soit, mais on parle pas assez, on met pas en avant les forces de l'ordre et le travail qu'ils ont fait hier, qui a été quand même assez exceptionnel, parce que un malade qui se balade avec un couteau en plein parc, en après-midi, bah, je suis désolé si on n'a pas des forces de police réactives. Et aussi rapide pour être sur le terrain, bah ça aurait pu être beaucoup 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 plus grave. Donc voilà, merci à eux. Et puis on attend l'enquête pour savoir ce qui se passe.
Frédéric Farah.
Bah, tout d'abord, ces attaques, si elles se multiplient, c'est qu'un couteau, c'est très facile à se procurer. Hein. Ce ne sont pas des armes compliquées, c'est pas une arme de guerre. C'est un couteau, ça s'achète un peu n'importe où, dans n'importe quelle situation. Donc,
et t'en as chez toi.
Et on a chez soi. Donc c'est pas des armes. C'est des armes faciles à dissimuler. Mmh. C'est des armes faciles à acquérir. Donc effectivement, on peut penser que beaucoup de gens, alors je sais pas si on a 10, 100 000 ou 10 000, se baladent avec des couteaux dans ici ou ailleurs. Et je pense que c'est.
Ça t'inquiète pas.
C'est pas que ça m'inquiète pas, c'est que c'est inquiétant, mais je ne veux pas me réveiller tous les jours en allant dans un métro, en allant dans un bus ou que sais-je, avec cette inquiétude permanente.
Ah, c'est intéressant, c'est-à-dire par rapport à la jeune fille que j'entendais hier dire, tout ça me fait flipper. Ouais. Toi, tu ne veux pas flipper, non. Tu ne veux pas céder.
Non, Alain, t'avais pas peur. Alain, quand t'étais au parc, t'as pas eu peur, toi, hier. T'as pas eu l'impression de te dire, merde, attends, il y a quand même la plus grande organisation terroriste au monde qui te met les quatre stades des matchs aller de Ligue des Champions, qui te dit, on va faire un attentat. Et nous, on y va la fleur au fusil en disant, allez, on va voir un match de foot. Donc, je te le dis, Alain, t'as quand même cette appréhension.
Oui,
mais Frédéric, il est des débiles.
Attention. Que les choses soient bien claires. Bien sûr, le climat est effrayant.
Anxiogène.
Je vais pas dire que tout ça me fait pas peur, mais je refuse, mais mordicus, d'y penser en me réveillant, en me couchant ou en me baladant dans la ville ou en allant voir un match de foot. J'ai pas vu le match de foot hier au stade, j'y étais pas, mais je refuse. C'est tout comme lorsqu'il y a eu ces terribles attentats, les lendemains, je dis pas que j'avais pas d'inquiétude ou je n'avais pas de peur ou quoi que ce soit, mais j'ai voulu absolument, et je tiens à continuer ma vie normale, c'est-à-dire aller dans des terrasses, boire des cafés, aller au concert, etc. Je ne veux surtout pas que ma vie change. Est-ce que j'y pense en me levant, en me couchant? Non, mille fois non. Est-ce que ça me préoccupe en tant que citoyen? Oui, bien évidemment. Je sais que ce sont les attaques les plus simples à mener parce que, comme je le disais, les armes sont disponibles et sont faciles. C'est pas, tiens, je vais m'acheter une Kalachnikov, je sors de chez moi, je trouve ça en bas de la rue. Non. Mais, effectivement, ensuite, ça pose une autre question quelque chose qui préoccupe la société, au-delà des visions du monde, bon ça on peut en discuter, sur un état psychologique, psychiatrique, où on vit dans une société où il y a des problèmes de plus en plus à ce niveau-là. De nombreuses études nous alertent sur la situation des gens dans cette société, psychique, etc. Et je ne voudrais pas que ces situations-là conduisent immédiatement à stigmatiser des populations et en les désignant comme étant potentiellement des assaillants ou des gens qui pourraient effectivement venir les uns ou les autres.
C'est le problème aujourd'hui, c'est vraiment ça fait flipper que j'ai en tête.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le couteau, il sort pour n'importe quoi.
Oui, bien sûr.
Ou la violence, elle sort pour n'importe quoi.
Vous avez vu.
Et c'est ça aujourd'hui, parce que finalement, c'est pour ça, alors il y a le sentiment d'insécurité, mais c'est ce que tu ressens par rapport à une réalité. C'est pas un fantasme.
Mais à Romans-sur-Isère, le jeune qui s'interpose, qui est un jeune inséré, qui travaille, il s'interpose dans une rixe. Zacharia. Il n'a rien à voir, ni avec un camp, ni avec l'autre. Par civisme, peut-être même, ou par sentiment humain, il s'interpose, il prend un coup de couteau, il meurt. Le monsieur sur le parking du Super U, il dit à l'autre, non, c'est, je sais pas ce qu'ils se disent, d'ailleurs, une banalité.
Il lui dit, arrête tes rodéos,
voilà, l'autre sort, il le tue au couteau devant sa femme et son enfant. Donc, moi non plus, j'ai pas peur. Mais, en fait, j'ai pas peur pour moi, parce que, voilà, par principe. Mais je me dis, mais dans quel monde va vivre ma fille, vont vivre les enfants, que j'ai bien même sûr, devant mes sûr. Yeux, que j'ai mes élèves. Des fois, je me dis, et je leur dis des fois, hein, on parle d'autre chose quand on parle de développement durable, etc. et ou qu'on parle de l'évolution de l'économie, etc. Mais je leur dis, le monde dans lequel vous allez vivre, on ne le connaît pas encore, aussi bien d'un point de vue d'emploi, de technique, etc. Je leur dis pas pour le reste, parce que le reste, c'est autre chose. Mais moi, je me projette en disant, qu'est-ce que c'est dans 10 ans? Qu'est-ce que c'est dans 20 ans, dans 30 ans? Ouais. Parce que la situation d'aujourd'hui, alors, je comprends que certains découvrent, hein, la Macronie découvre la question de l'insécurité. Enfin, nous, on découvre pas. Moi, ça fait 25 ans que je le vois parce que j'ai commencé à enseigner il y a 25 ans. Bah, excusez-moi, hein, à 25 ans, il y a 25 ans, je voyais bien les problèmes et je n'ai vu que l'aggravation de la violence dans la jeunesse, de la société. Les profs qui se faisaient agresser, ça existait déjà dans les années 2000 et ça n'a fait qu'augmenter. Et pendant des années, non, c'est un sentiment d'insécurité. Donc, aujourd'hui, la réalité, elle fracture tout. Elle éclate complètement le plafond de verre.
La réalité de l'insécurité.
La réalité de l'insécurité. Elle éclate le plafond de verre. Les politiques qui nous ont dirigés pendant 30 ans et qui nous ont expliqué « Oh mais non, mais c'est pas gnagnagna », ils s'en prennent plein la tronche. Et maintenant, ils vont comprendre ce qui va leur arriver parce que ça ne peut plus durer. Voilà.
Oui, mais la question c'est, en fait, pourquoi on en arrive là?
Parce qu'on n'a rien fait.
Parce qu'on a nié
la réalité pendant 20 ans.
Mais la question, on a nié cette réalité. Mais est-ce que cette réalité, on peut y répondre uniquement par une présence policière hautement nécessaire, on le sait. Où est-ce qu'il...
Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'on a toujours vécu avec cette insécurité, c'est ça.
Bien sûr.
Et donc, il faut pas en faire plus aujourd'hui.
C'est parce qu'on a détruit l'autorité de l'école, l'autorité du maître, l'autorité des parents. On a détruit toutes les figures d'autorité. Ça joue énormément. Aujourd'hui, la société, elle peut plus rattraper le fait d'avoir détruit les figures d'autorité. Je suis désolée.
Oui, mais alors, la question c'est, qui est ce « on » ? Qui a participé à cette destruction?
L'intelligentsia des années 70-80, y compris dans le milieu de l'éducation nationale, les Philippe Mérieux et compagnie à l'éducation nationale, qui maintenant, qui sont vieux et à la retraite, nous disent « Oui, finalement, on s'est peut-être un peu trompé, oui, merci. » Mais pendant 40 ans, ces gens-là, ils ont fait des dégâts en nous parlant de la pédagogie, de machin, de choses complètement stupides.
L'attaque à Bordeaux, est-ce que ça accentue justement aujourd'hui cette insécurité, cette peur peut-être que l'on peut avoir au quotidien? 32-16 pour en parler avec les GG dans un instant. Hervé qui est retraité, qui va nous dire que Bordeaux a bien changé aussi, malheureusement. Quentin qui nous appelle de Haute-Vienne, il estime que maintenant il est temps de réagir dans le pays aussi. Faut faire quelque chose. Mais quoi? Frédéric, l'insécurité, elle sera tout le temps là. Allez, à tout de suite avec les GG. On revient à Bordeaux. C'est Hervé qui va en parler avec nous. Bonjour Hervé.
Oui, bonjour. Hein.
Est-ce que cette attaque à Bordeaux, ça, je reprends l'expression, ça vous fait flipper, ça accentue votre peur au quotidien ou pas?
Non, du tout, non, parce qu'en fait, je prends quelques règles, comme on était... Allô?
Oui, je vous écoute, bien sûr. Ouais.
Comme on était 15 jours avec mon épouse, justement, pour un stage près de Bordeaux, on allait se balader, et on s'est baladé justement le long de la Garonne.
Oui.
Et c'est vrai qu'on était plusieurs fois importunés... par des gens qui réclamaient de l'argent, ou on voyait bien qu'ils n'étaient pas trop bien dans leur basket, quoi. Et je suis pas étonné en fait de ce qui arrive, parce que effectivement c'est un endroit où beaucoup de gens se baladent et il peut arriver n'importe quoi en fait.
C'est pas rassurant. non mais vous dites ça ne m'inquiète pas et tant mieux, vous gardez une certaine sérénité, mais se promener dans un endroit en disant il peut m'arriver n'importe quoi, normalement quand on se promène, on doit être l'esprit tranquille, l'esprit serein. Si on est sur les bords de la Garonne, on doit pouvoir flâner tranquillement sans être importuné en se disant attention à ce qui peut se passer, quoi.
Ouais, mais c'est ce qui arrive un peu comme dans toutes les grandes villes. Vous prenez, moi j'habite près de Lille. Ma fille travaille dans le centre de Lille il y a encore quelques semaines. Elle est obligée de partir parce qu'en fait elle a été importunée quand elle partait au travail, quand elle revenait. Elle s'est fait cambrioler plusieurs fois, on lui a volé son vélo dans son garage alors que c'est une résidence qui était quand même sécurisée. Et pareil, c'est le même genre, en fait. Il y a toujours une faune qui traîne, qui est là, qui réclame de l'argent, qui, voilà, et puis, de temps en temps, vous donnez une pièce, parce que, voilà, vous n'êtes pas non plus...
Si vous donnez une pièce, et puis si on a décidé pour ne pas donner la pièce, on a vu qu'ils, malheureusement, se sont trouvés dans des situations fâcheuses. Tu voulais dire, Mehdi, par rapport à ce que tu disais?
Non, mais la mendicité est une chose, mais ça, c'est une agression au couteau. Enfin,
c'est pas la même chose.
C'est quand même quelques degrés de plus, monsieur. Vous me dites, oui, on a été importuné pour nous demander une pièce.
Oui,
en France, ça arrive dans toutes les villes de France, ça, il n'y a pas de souci. Mais. Personnellement, on m'a jamais menacé avec un couteau pour me demander une pièce. Donc,
j'ai refusé. Qui m'a mis un couteau contre le ventre parce qu'il voulait, ma monnaie.
Une amie m'a raconté qu'elle avait un de ses collègues dans le RERC à 6h30 du matin. Il était seul dans un wagon. Il s'est fait embêter par un drogué qui voulait, il voulait lui piquer sa montre. Et le drogué, il était complètement déchaîné par son état et il l'a massacré, quoi. La personne était très très blessée quand elle est ressortie. Il était tout seul, 6h30 du matin, RERC, Versailles, machin. Donc,
c'est là où c'est embêtant parce que vous dites aujourd'hui. Voilà, ma fille, à qui il est arrivé ça. Je me suis promené à Bordeaux, ça a bien changé. On voit bien qu'il peut se passer quoi que ce soit. Et cette personne qui s'est fait poignarder dans la rue, il s'est fait poignarder devant tout le monde. Vous comprenez, c'est ça aujourd'hui qui ne va pas, qui ne colle pas dans notre société. C'est-à-dire qu'il y a même pas la peur de se dire, je vais passer à l'action ou je vais passer à l'acte.
Mais oui.
Alors qu'on est en train de se promener sur un endroit familial. Tu comprends.
Mais d'ailleurs, quand on voit les images,
le couteau, il va. Et puis, tu le vois, il s'acharne. La vidéo, elle est traumatisante de voir cette vidéo avec le gars qui lui dit
arrête,
on est frères, arrête, on est pareil. Et l'autre, il est là, il le poignarde. Alors qu'il y a des gens à côté qui se promènent, voilà, qui font du vélo, il y a des enfants. C'est ça.
Et quand tu vois les images, tu vois que ça ne crée pas un mouvement de panique, hein.
Alors, ça veut dire qu'on s'habitue à cette violence.
C'est même pas ça. Je pense que les gens n'ont pas vu ce qui se passait. Parce que, si tu vois un truc pareil, tu vas t'enfuir. Rappelez-vous le type là qui avait poignardé à Annecy, les gens s'enfuyaient. Là, en fait, les gens, je pense, ne se sont même pas rendu compte qu'il y avait un type qui était en train de poignarder, parce que les gens continuent à vélo, continuent à marcher. Et je pense pas que c'était de l'indifférence. Et je pense qu'on ne se rend même plus compte. Et ça devient très grave.
Oui, on se rend peut-être pas compte, ou peut-être. Je crois que même peut-être les gens ont intégré même. Ça fait partie.
Ça s'appelle la défense psychologique. Tu fermes les écoutes.
Oui, mais bien sûr, parce que je pense que les gens l'ont presque accepté. Et puis il faut se mettre aussi à la place des gens. Je pense que se dire si les gens voient, on l'a bien vu à Annecy. Il y a eu ce jeune homme qui avait tenté de faire quelque chose, mais on peut comprendre aussi légitimement la peur des gens d'intervenir. Je veux dire, comme c'est un homme armé, la plupart des gens, ils savent pas quoi faire face à ça, et c'est normal en même temps.
C'est bien le problème.
Comment agir, et comment agir correctement pour à la fois protéger la personne qui est en situation d'être agressée, et comment soi-même aussi ne pas se retrouver dans cette situation. Et c'est pas forcément de la lâcheté, parce qu'avant, effectivement, de dénoncer les gens comme quoi ils font rien, c'est pas une situation facile psychologiquement à gérer aussi.
Merci Hervé d'avoir été avec nous dans les GG, dans les grandes gueules.
Merci, bonne journée à vous.
Merci. Bonne journée, Hervé. Quentin nous appelle de Haute-Vienne. Donc bonjour, oui. Quentin.
Bonjour.
Comment vous avez réagi après ce qui s'est passé à Bordeaux? Est-ce que ça accentue ou ça peut accentuer la peur au quotidien, alors, Quentin?
Alors moi personnellement, je n'aurais pas peur. Je continuerai de vivre ma vie comme il le faut, parce que si on cède à la peur, malheureusement, c'est eux qui gagnent, comme d'habitude.
Oui.
Sauf que au bout d'un moment, ça commence à devenir pénible de voir des infos quotidiennes comme ça, en fait. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ce gouvernement va faire quelque chose? Parce qu'on dit bien que la peur évite le danger, sauf que ce gouvernement ne fait strictement rien pour faire des exemples dans ce pays. Voilà. Tant qu'on montrera que t'auras peut-être des travaux d'intérêt généraux, t'auras peut-être une petite tape sur le doigt et au pire t'auras du sursis. Ah oui, c'est sûr que ça va vachement empêcher la délinquance. C'est vrai, effectivement, ça va vachement les empêcher d'agir. Non, sauf qu'on ne fait strictement rien. Les policiers, eux, font leur travail, il n'y a pas de problème. Mais c'est la justice derrière. C'est Monsieur Dupond-Moretti qui, plutôt que de tacler le RN à longueur de journée, de faire des leçons de morale, il ferait mieux de faire son travail correctement. On attend Monsieur Dupond-Moretti à agir. Sauf qu'il ne fait strictement rien. Voilà. Et après, on ne comprend pas pourquoi ça continue. Eh ben, c'est sûr que en disant rien et en laissant tout faire, eh ben, faut pas s'étonner que derrière, tous les jours, il y a des drames comme ça. C'est dramatique, hein.
Quentin, vas-y, Frédéric.
Je suis d'accord avec votre inquiétude. En même temps, les prisons, elles explosent en France.
Ouais.
Je veux dire,
la
population carcérale déborde, et même les capacités d'accueil même des prisons en France, ils sont plus en capacité, les prisons françaises, d'accueillir qui que ce soit.
Ouais, mais enfin, il avait dit qu'il en construirait 15 000 quand il est arrivé. Ouais, on les attend toujours. Hein, on en a 2 000. Hein.
Oui, mais en même temps, regardez, un pays où il y a un effort carcéral considérable comme les États-Unis, n'empêche que la criminalité, elle explose aux États-Unis dans des proportions encore parfois plus inquiétantes que les nôtres, tant les armes circulent aux États-Unis, et on voit ces crimes parfois de masse aux États-Unis qui ont lieu. Donc, je dis pas qu'il faut laisser les gens dans la nature, qu'ils continuent à faire ce qu'ils veulent, mais on voit bien que nos prisons éclatent de partout. C'est-à-dire
Donc la réponse pénale, elle est là.
Et la réponse pénale, elle est là, parce que je pense que si on a mis des gens en prison.
La réponse pénale, elle est pas là. On en parlera tout à l'heure avec le rapport sur les émeutes. Excuse-moi, la réponse pénale n'est pas là. Il faut en particulier la question en quelque sorte, de la peine préventive, c'est-à-dire le fait que quand tu es chopé à la première infraction, D'accord, à la première infraction, et même si tu as 15 ans, première infraction, première sanction, pas rappel à la loi, pas petite tape sur les doigts, la sanction. Et moi, crois-moi, si tu fais deux semaines, trois semaines, un mois, délocalisé dans un centre éducatif fermé, ça va te calmer un peu, ça va te remettre les idées en place. Parce que prendre le problème quand le gars a 18 ans ou 20 ans, c'est bon, ça sert à rien, tu peux mettre la clé sous la porte.
Mais par exemple, on avait vu quand, ici on avait parlé de ce qui se passait parfois à Marseille, que depuis les prisons, comment dire?
Ouais, il dirigeait les trafics.
Il dirigeait les trafics. Ah donc, oui. C'est-à-dire que la prison n'est pas forcément le lieu où on endigue la criminalité.
Mais Quentin, ça veut dire que vous, aujourd'hui, vous pointez du doigt, vous dites, malheureusement, on ne sanctionne pas suffisamment, on ne met pas suffisamment de peines lourdes et de peines fortes. Bah oui. Alors, peut-être dès le plus jeune âge. Voilà. Mais est-ce que vous attendez, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait davantage de présence policière en ville, plus de patrouilles de police ou pas, par exemple, Quentin?
Comme je le disais, les policiers, eux, ils font leur travail, c'est derrière, ça suit pas. Donc, eux, qu'ils soient 10 ou 20 ou 30 ou 200 dans une cité, c'est pas pour ça que ça va forcément enrayer le problème derrière, parce que M. Dupond-Moretti va rien faire derrière, je suis désolé. On dit justement, enfin, un de vos chroniqueurs disait justement que les places de prison, il n'y en a plus. Et si on allait taper depuis des années dessus, qu'on montrait des exemples et qu'on te dit, si tu fais ça, tu vas mériter ça, vous inquiétez pas que dans les têtes, ça va réfléchir deux secondes avant d'agir. Et donc, il y aurait peut-être pas autant de prisons engorgées comme elles le sont aujourd'hui. Sauf que c'est malheureusement le résultat de l'axisme depuis des décennies, on n'a rien voulu faire et aujourd'hui, on n'a plus de place de prison parce que ben forcément, vu qu'on leur dit qu'ils peuvent continuer, et ben forcément, il y a de plus en plus de délinquants, donc ils sont arrêtés, ils restent 2-3 heures et puis après, ils ressortent et ils peuvent recommencer et ainsi de suite, donc forcément hein, on peut construire des prisons, c'est pas un problème hein. Tant qu'on s'arrête derrière, ça sert à rien. Moi, je suis désolé, hein, normalement, il faut faire agir et taper vraiment taper sur les doigts, mais vraiment taper comme il faut quoi.
Merci voilà. Quentin d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules. Tu voulais ajouter quelque chose?
Non, mais on ne peut être que d'accord avec ce que dit Quentin. De toute façon, le travail de la police a été fait remarquablement. Maintenant, si la justice derrière, si peut-être que cette personne elle aurait survécu, on aurait dit comme quoi il avait un problème psychiatrique et que il méritait d'aller dans un asile ou dans une chose comme ça et qu'il serait pas jugé pénalement responsable. C'est une possibilité. Vous le savez très bien tous autour de la table. Les récents exemples qu'il y a eu où à chaque fois on trouve des circonstances atténuantes, d'accord. Donc, il a raison, cet auditeur a raison. Il faut être beaucoup plus sévère dans la responsabilité pénale de ces personnes-là.
On a Adam qui est en Gironde, qui est du côté de Bordeaux. Bonjour Adam.
Bonjour messieurs dames.
Bonjour. Attaque au couteau. Donc peut-être que vous connaissez bien le quartier puisque vous êtes bordelais.
Est-ce que
ça accentue aujourd'hui votre sentiment de vos craintes au quotidien ou pas, Adam? Alors. Ouais.
Concrètement, ça les accentue pas parce que ça fait presque 10 ans maintenant qu'on sait que Bordeaux ça craint. Voilà, on sait qu'il y a des soucis de délinquance, on sait qu'il y a des soucis de drogue qui sont presque impunis parce qu'on voit très rarement la police. C'est pour ça que je suis hyper surpris et agréablement surpris que la police ait pu agir aussi vite au final, parce que bon voilà, il y a quand même un mort, c'est tragique, mais enfin la personne a pu être maîtrisée relativement rapidement. Mais c'est ce genre de rixe-là au couteau dans Bordeaux, notamment dans ce quartier-là, quartier Saint-Michel, hein, c'est monnaie courante.
Ah bon?
Comment vous expliquez ça, cette bascule il y a une dizaine d'années?
Alors, il y a plusieurs points, plusieurs facteurs.
Le nouveau maire y est pour quelque chose, d'après ce que j'ai compris.
Bon, on veut pas l'admettre, mais oui, voilà, on est passé d'un maire de droite à un maire écologiste.
Qui a relâché un peu les. Services et niveau de sécurité. D'après ce que moi je suis pas bordelais, je connais pas.
Oui, mais Adam dit ça fait 10 ans, ça fait pas 10 ans que Urmic est là.
Ça fait 6 ans.
Non, même c'est pas avec tout suite, municipal en 2026, donc ça fait 4 ans qu'il est là.
Concrètement, c'est les politiques là qui ont mis moins d'argent dans la sécurité parce que Bordeaux a toujours eu cette image quand même de ville assez safe, hein, faut dire qu'il est. Ça s'est aggravé, oui, parce que les dépenses ont été déplacées ailleurs. On a réduit, je pense, les effectifs dans la rue. Et on a une population de personnes dans Saint-Michel, ce quartier-là, c'est un quartier qui est assez populaire, avec pas mal d'insalubrité dans les logements, donc n'importe qui s'y installe, on va dire. On a d'autres problèmes aussi, ça, on n'en parle pas assez, mais bon, on a un Carud. Donc, vous savez, c'est le centre de gestion des personnes qui ont des problèmes de dépendance dans ces quartiers-là. Donc, il y a énormément de deals, il y a énormément de consommation à ciel ouvert. Et forcément, on se retrouve avec des cas de figure comme ça. Donc, moi, je suis sûr, pratiquement à 70% que c'est une histoire de drogue derrière, quoi.
On va voir.
Apparemment, Adam. Pour l'instant, non. Hein.
Merci.
Le monsieur qui a été tué, apparemment, n'était pas un drogué.
Apparemment, c'est une rixe, peut-être liée à l'alcool, peut-être avec une toile de fond religieuse, d'après les premiers éléments qui ont été donnés par la police. On va voir.
Si c'était lié à de la drogue, on saurait que les protagonistes étaient connus pour des trafics de stupes. Apparemment, non.
Merci, Adam. Vous aurez conclu notre discussion. Donc, l'attaque au couteau à Bordeaux. On vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça accentue votre crainte, votre peur au quotidien? C'est un oui à 62%. Bah, on est sur deux tiers, un tiers. Un peu comme si on regardait autour de la table avec un Fred qui est là tout seul et qui représente le tiers restant.